Alors qu'on est en attente d'une véritable réforme du droit de la famille, du Code civil, l'avocate Anne-France Goldwater s'adresse à la Cour supérieure pour que les conjoints de fait au Québec soient mieux protégés devant la loi. On se souvient de la cause de Lola, par exemple. Et la question ce matin, est-ce que les conjoints de fait devraient avoir les mêmes droits, les mêmes protections que les couples mariés ou seulement ceux et celles qui ont des enfants? Luc?
Pour moi, ça fait aucun doute, c'est ceux et celles qui ont des enfants. Marie-France, Anne-France Goldwater, elle revient avec la cause de qu'elle a perdu de Éric contre Lola il y a 10 ans, en disant, elle dit, le Québec a eu 10 ans pour se préparer, pour faire des modifications, il ne les a pas faites. Je pense que cette fois-ci, si je retourne en Cour suprême, il va y avoir une sanction de la Cour suprême. Donc, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle retourne à la Cour, non pas pour tester le Code civil québécois, qui lui a déjà été testé il y a 10 ans, mais pour avoir une sorte de punition contre le gouvernement du Québec, qui a tardé à modifier ses lois en termes d'équité pour les femmes, en particulier les femmes avec enfants. Moi, je pense qu'elle va perdre. Moi, ça, c'est une autre affaire parce que c'est l'intention, c'est de pas. La Cour suprême, elle teste la validité des lois. Elle teste pas la validité des gouvernements. Elle teste pas les intentions des gouvernements ou la rapidité avec laquelle ils mettent en place des réformes. Et je pense qu'elle le sait, mais qu'elle le fait pour des raisons de militance. Elle a raison sur le fond, là. Et c'est pas elle qui le dit, c'est Alain Roy, qui est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, puis il était président du comité consultatif sur le droit de la famille pendant 2 ans. Ça n'a pas d'allure. Il y a 40 % des couples qui ne sont pas mariés au Québec, puis il y a 60 % des enfants qui sont nés dans un couple en union de fait. Quand tu te divorces, c'est une expérience formidable, et tu vas voir il y a un cours de formation. Et moi, j'ai adoré ça, le cours de formation. Puis il y a un avocat à la retraite généralement qui t'explique c'est quoi la famille du point de vue d'un enfant. Et il te dit, regarde, vous vous aimez plus, OK? Chacun dans votre coin, c'est fait, c'est décidé, c'est correct. Mais lui, il y a juste une famille. Puis c'est vous. Le père, la mère, l'enfant, le triangle. Ou les enfants. Et pour lui, là, que son père l'amène à Las Vegas pendant la semaine de relâche, là, ça a infiniment moins de valeur que de savoir que sa mère est capable de faire face à la réalité économique de tous les jours avec la même capacité que son père. Lui, il veut avoir un soutien de son père, de sa mère, de son enfant. Puis idéalement, il faut que les parents aussi se parlent entre eux. Et c'est ça, une famille pour un enfant divorcé. Il y a trop de familles pour enfants divorcés où la mère n'est pas capable de faire face à ses obligations. Et ça n'a aucun sens du point de vue de l'enfant. Une mère stressée, c'est un enfant stressé. Une mère pauvre, c'est un enfant pauvre. Alors, sur cette base-là, il est clair qu'il faut réformer le droit de la famille pour les familles avec enfants. Je reviendrai tout à l'heure avec les familles sans enfants. Parfait. Je ne crois pas du tout qu'il faut le réformer.
Nathalie.
Ouais, ben, là où je te suis, Luc, effectivement, c'est les familles avec enfants. Il n'y a aucun compromis qui est possible. Tu as très bien résumé la situation dans laquelle, parfois, malheureusement, les enfants se retrouvent. Juridiquement, la cause, bien sûr, est intéressante. Tu l'as dit, Paul, il y a 8 ans, c'était Éric contre Lola. Là, c'est Nathalie contre Pierre. En fait, le cas dont il s'agit, c'est vrai, c'est une femme qui a vécu 30 ans avec son conjoint. Ils ont 4 enfants. Et ce que va, entre autres, plaider Maître Goldwater avec sa collègue, c'est de dire que sur la base de l'article 47 de la Charte des droits et libertés, on ne peut pas être discriminé sur la base de l'état civil. En fait, qu'on soit conjoint de fait ou marié, on devrait avoir les mêmes droits. Parce que c'est ça la position d'Anne-France Goldwater, c'est-à-dire les conjoints de fait devraient avoir les mêmes droits que les conjoints qui sont mariés. L'idée est attrayante, mais pour les conjoints de fait qui n'ont pas d'enfants, c'est une autre réalité. Avant d'aller sur cette question-là comme Luc, j'aimerais ajouter le fait que juridiquement, effectivement, la cause est intéressante et Maître Goldwater, elle est, habile. Parce que si elle obtenait une décision positive de la Cour, Luc, tu en doutes, mais on ne sait jamais, ça forcerait le gouvernement à bouger parce que le gouvernement a effectivement un projet de réforme du droit de la famille. C'est-à-dire Alain Roy, professeur, ils étaient une dizaine d'experts à l'époque, ils ont produit un extraordinaire rapport, écoutez, 616 pages. c'est la Bible dont a besoin le gouvernement pour réformer le droit, le droit de la famille qui n'a pas été réformé depuis les années 80. Alors, il faut dépoussiérer effectivement toutes les dispositions qui existent dans le Code civil en la matière. Mais moi, par exemple, qui vis dans une situation, moi, je suis conjoint de fait, puis au Québec, hein, si ça fait 12 mois et plus que tu habites avec ton conjoint et que tu n'es pas marié, tu es considéré, par exemple, aux yeux de la loi sur l'impôt comme conjoint de fait. Moi, honnêtement, tu sais, je veux pas personnaliser la chose, mais je suis convaincue qu'il y a plein d'auditeurs qui vont se retrouver. Prenons pour acquis, effectivement, qu'on réforme que tous les conjoints de fait auraient les mêmes droits que les personnes mariées. Ben moi, je me vois pas dans une situation où je quitte un conjoint, je sais pas, moi, après 5 ans, 8 ans, 10 ans, puis être obligé, par exemple, de lui verser une pension alimentaire.
Là, tu parles des cas où il n'y a pas d'enfant, là.
Les cas où il n'y a pas d'enfant. Okay. Parce que moi, j'ai choisi de ne pas me marier dans la vie. C'est un choix que je fais, là. Tu sais, fait que je me dis, la loi viendrait, dans le fond, m'imposer les mêmes obligations que j'étais mariée alors que j'ai choisi de ne pas être mariée.
Luc, tout à fait. C'est un choix en pleine connaissance de cause. Et le nombre de situations aujourd'hui est énorme. Madame Goldwater, ce qu'elle demande, c'est qu'après 3 ans, tous les couples deviennent des conjoints, tombent sous les principes de la loi, comme s'ils étaient mariés, qu'ils aient des enfants ou pas, après 3 ans. Alors, là-dedans, il y a plein de gens qui ne veulent pas ça. Ce sont des adultes qui sont majeurs et vaccinés, puis qui ont décidé que non, il y a des raisons qui font qu'ils ne veulent pas ça. Par exemple, une femme décide de pas travailler après avoir eu ses enfants sont élevés, OK? Puis elle arrive dans une nouvelle union, ou alors de la même union, mais elle décide de ne pas travailler. Si la loi dit qu'il va falloir y avoir un partage égal du patrimoine et des revenus, ben, le mari pourrait dire à la femme, non, tu n'as pas le droit de ne pas travailler. Il faut que tu ailles travailler parce que quand on va se divorcer, moi, je vais être obligé de te donner la moitié. Fait que c'est pas vrai que tu vas rester à la maison. Une autre situation, la femme, et ça arrive de plus en plus souvent, a plus de revenus que l'homme. Non seulement elle a élevé les enfants, mais a plus de revenus que l'homme. Là, il faudrait qu'elle partage le patrimoine financier avec l'homme. Un instant. Il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord. La prise de risque, deux personnes qui sont en affaires ensemble, deux personnes, ils ont chacun leur affaire. Une est médecin, puis là, je ne sais pas quelle sorte de business, là, puis l'autre est dans l'immobilier. Ils prennent des risques tous les deux de leur côté. Tout à coup, ils deviendraient responsables des risques de l'autre, alors qu'ils ne sont peut-être pas du tout d'accord avec les risques de l'autre. Il y a énormément de situations où le Code civil fait du sens en disant il y a des personnes qui ont pris la décision de ne pas se marier. Une façon de le simplifier, je pense, ça serait de dire, à l'hôpital, quand l'enfant naît, tu signes un document qui est l'équivalent d'un mariage à l'hôpital. En reconnaissance, je reconnais père et mère, on reconnaît avoir fait cet enfant-là ensemble, donc nous sommes mariés, point final. Et les autres, vous vous arrangez avec vos situations personnelles parce que c'est ça que vous avez voulu.
Parce que tu as le droit de faire une entente, c'est-à-dire que tu peux déterminer voici en cas de rupture quelles sont les modalités. Là.
Ben oui,
exact.
Ben oui.
On appelle ça des accords de cohabitation, puis il y a des accords de séparation qui existent aussi. Tu peux ajouter à ça un testament. Puis pourquoi vous pensez que le gouvernement n'a pas bougé sur cette question? Parce que c'est politiquement, c'est assez, périlleux, là. T'sais, imaginez un cas où, non, là, je parlais de la pension alimentaire tout à l'heure, mais écoute, tu vis, t'es pas marié, puis ton ex-conjoint avec qui t'as vécu 8 ans vient piger dans ton fonds de pension. Excuse-moi, là. Écoute, y en a qui vont péter les plombs, c'est sûr. Alors, mais pour les enfants, effectivement, il y a aucun compromis possible. Puis lorsque Maître Goldwater dit, il y a aucun droit pour les conjoints de fait, en fait, il faut nuancer un peu plus. Il y a des obligations qui existent pour les conjoints de fait qui ont des enfants. Mais elle veut aller plus loin. Puis dans le fond, là, avoir une formule mur à mur pour l'ensemble des conjoints de fait. Mais moi, je me dis, attends une minute, là, il faut nuancer un peu parce que politiquement, je vous jure qu'il y en a qui vont monter aux barricades si jamais le gouvernement vous laisse lancer dans une aventure comme celle-là, c'est-à-dire des conjoints de fait sans enfants, puis imposer les mêmes obligations que si vous étiez marié. Aïe, aïe, le gouvernement est mieux d'attacher sa tuque.
On s'arrête là-dessus. Au retour, Luc, faut-il taxer les riches?
Oui, monsieur.
Pour payer la facture de la pandémie, le contraire, une réponse contraire m'aurait étonné. Allons voir la situation sur la 35.